Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Québec Science. Au programme, les éléphants seraient-ils domestiqués eux-mêmes? Et Voyage au crépuscule de la mort. Bonne écoute.
Les éléphants se seraient-ils domestiqués eux-mêmes? Un texte de Raphaël de Rome, paru le 29 juin 2023 dans le magazine Québec Science. L'humain a domestiqué plusieurs espèces animales en sélectionnant systématiquement les individus les moins agressifs pour la reproduction. Le même phénomène pourrait-il se produire sans notre intervention? Une nouvelle étude se penche sur le cas des éléphants. Une hypothèse provocante veut que l'action de l'humain ne soit pas nécessaire à la domestication d'une espèce animale. Lorsque les conditions environnementales ou sociales le requièrent, celle-ci évoluerait naturellement pour devenir moins agressive et plus docile. Ce processus d'autodomestication serait d'ailleurs arrivé aux humains. Il y a entre 200 000 et 10 000 ans, peut-être en raison du climat, nos ancêtres auraient été forcés de coopérer avec d'autres groupes pour survivre. Les humains, au tempérament moins agressif, plus enclins à échanger avec les étrangers, auraient mieux survécu et engendré plus de descendants. Petit à petit, ces contacts auraient permis de développer les langues, les outils et les sociétés complexes qui nous différencient des autres animaux. Cette hypothèse est encore loin d'être établie car elle est très difficile à tester, prévient Limor Raviv, spécialiste de l'évolution du langage à l'Institut Max Planck de psycholinguistique à Nimègue, aux Pays-Bas. Avec une équipe multidisciplinaire, elle a présenté une étude dans PNAS qui relance le débat. Un petit nombre d'espèces. Jusqu'à présent, seuls les humains et les bonobos, cousins pacifiques des chimpanzés, se seraient ainsi domestiqués eux-mêmes, selon la théorie. Or, si le phénomène est réel, il doit forcément exister chez d'autres animaux, s'est dit Limor Raviv. Il se trouve que dans ses temps libres, la chercheuse se passionne pour les éléphants. Et s'il faut en croire sa nouvelle étude, les similitudes sont nombreuses entre les humains, les bonobos, et ces tendres géants. Les éléphants sont peu agressifs, curieux, joueurs, hautement intelligents et capables de coopération et d'empathie, qu'ils démontrent par exemple en aidant leurs congénères blessés ou mourants. Les pachydermes ont aussi un répertoire vocal sophistiqué et ils se reconnaissent dans le miroir, signe d'une conscience de soi. Surtout, ils peuvent apprendre des autres. Des comportements innés chez d'autres animaux, comme savoir quoi manger ou comment prendre soin des jeunes, sont plutôt transmis socialement chez les éléphants. N'est-ce pas là une forme d'apprentissage culturel? Le syndrome de domestication. L'équipe de Limor Raviv, qui compte notamment un généticien et un spécialiste des éléphants, a découvert chez cet animal plusieurs gènes typiques et traits morphologiques caractéristiques des espèces domestiquées. C'est Charles Darwin lui-même qui a d'abord remarqué que les animaux domestiqués ont un ensemble de traits en commun, nommé plus tard le syndrome de domestication. Peau dépigmentée, moins de dents que leurs ancêtres, crâne aplati, comportement juvénile conservé longtemps. On le devine, les éléphants ont tout ça. L'étude récente suggère que l'autodomestication des éléphants aurait pu être rendu possible par leur grande taille. Moins vulnérables aux prédateurs et donc moins stressés, les pachydermes disposeraient de plus de ressources cognitives pour explorer, communiquer et jouer. Mais est-ce suffisant pour conclure que les éléphants se sont domestiqués eux-mêmes? Même si on reconnaît l'existence de nombreux comportements prosociaux chez les éléphants modernes, impossible de savoir s'ils sont plus ou moins agressifs que leurs ancêtres, fait valoir Guy Drouin, professeur de biologie à l'Université d'Ottawa, qui n'a pas participé à cette étude. Moi-même, je ne suis pas entièrement convaincu, avoue Limor Raviv. Notre étude est très préliminaire. Peut-être que dans quelques années, on aura totalement écarté cette hypothèse, mais je trouve que l'idée vaut la peine d'être prise en considération. Elle poursuit donc ses travaux. Nous venons de lancer un projet pour examiner d'autres espèces candidates. Baleines, dauphins, chauves-souris, perroquets. Des espèces reconnues pour leur intelligence, mais aussi pour leur système de communication poussé. Que l'hypothèse de l'autodomestication soit confirmée ou non, nous devrions être plus humbles, attentifs et respectueux envers les autres espèces animales, croit la chercheuse. Notre vision est si étroite. Nous sous-estimons constamment la complexité du comportement animal. Apprivoisés, mais jamais domestiqués. Depuis des millénaires, des éléphants apprivoisés sont utilisés pour le travail, la guerre ou le divertissement. Mais l'espèce n'est pas domestiquée pour autant, selon les biologistes. Pour qu'il y ait domestication, il faut qu'il y ait sélection de certains individus sur plusieurs générations. Les éléphants ne se reproduisant qu'à partir de 20 ou 30 ans, les individus en captivité sont généralement capturés dans la nature. L'espèce n'a donc pas été soumise à une sélection artificielle par les humains, indique Guy Drouin. De plus, dans les rares cas où une femelle met bas en captivité, il arrive souvent qu'elle néglige son petit, souligne Limor Raviv. Dans la nature, les soins parentaux sont enseignés par les autres femelles, ce n'est pas inné. Une femelle seule n'a généralement pas l'instinct nécessaire pour prendre soin de son petit correctement. C'était « Les éléphants se seraient-ils domestiqués eux-mêmes ?» un texte de Raphaël de Rome, paru le 29 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Voyage au crépuscule de la mort. Un texte de Laurie Noro, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Alors que l'on croyait les défunts dénués de toute forme de vie, voilà que de curieux mécanismes biologiques se mettent en branle plusieurs heures après l'ultime souffle. La mort serait-elle vraiment le dernier acte? Fabrice Chrétien à chercher des sources de cellules souches partout, autant dans le tissu musculaire que dans le sang de cordon ombilical. Chaque fois, la quantité extraite était décevante aux yeux de ce pathologiste qui consacre ses recherches à la thérapie cellulaire. Son dernier espoir? Les cadavres. Le premier mort à se retrouver dans son laboratoire de l'Institut Pasteur en France avait rendu l'âme 4 jours auparavant. Le processus de décomposition était déjà entamé et le cadavre ne montrait en toute logique aucune trace de vie, du moins en apparence. En observant le tissu musculaire du défunt au microscope, le chercheur a senti un long frisson lui parcourir l'échine. On avait des milliers de cellules vivantes provenant d'un cadavre bel et bien mort, prend-il la peine de préciser, sans relever la contradiction. Les cellules en question étaient justement des cellules souches, connus pour leur capacité à se différencier afin de devenir n'importe quel type de cellule. Sous sa lentille, elle continuait à se multiplier avec vigueur. Bouleversé, le chercheur dépose alors la boîte de Pétri, convaincu qu'il n'a pas pris la bonne. Ses expériences subséquentes, notamment sur un cadavre de 17 jours, lui donneront finalement raison en dépit du scepticisme de ses collègues. La mort n'est pas l'absence de vie, du moins pas au niveau cellulaire. J'ai découvert des choses incroyables qu'on ne soupçonnait même pas car, pendant longtemps, on n'a rien voulu connaître de ce qui se passait après la mort, remarque Fabrice Chrétien, qui a publié ses travaux en 2012 dans la revue Nature Communication et qui s'attelle depuis à décortiquer les mécanismes permettant à des cellules de défier la mort. En montrant que la vie ne s'éteint pas d'un coup, une fois le rideau tombé, cette découverte fortuite a, en quelque sorte, ouvert un nouveau champ de recherche, celui de la biologie post-mortem qui sonne comme une promesse d'immortalité. On tente constamment de repousser les frontières de la mort, remarque Céline Lafontaine, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et auteure de « La société post-mortelle, la mort, l'individu et le lien social à l'ère des technosciences ». On ne voit plus la mort comme un phénomène ou un instant, mais comme un processus, poursuit-elle. On croit que si on comprend les mécanismes de la mort, on peut les inverser, alors que la mort est inévitable, innée à l'organisme. Le chercheur Fabrice Chrétien a découvert que des cellules souches continuent de se multiplier après la mort, tant chez les humains que chez les souris. L'angle mort de la recherche. Fabrice Chrétien n'a pas pour objectif de ressusciter les défunts, mais il pourrait bien avoir trouvé un moyen de guérir certains patients en dénichant une source inespérée de cellules souches capables de régénérer les tissus malades. Il faut dire que sa trouvaille est déstabilisante. En théorie, impossible en effet pour une cellule de survivre plus de quelques minutes dans un corps sans vie. Mais les cellules souches des morts, elles, ont un don, celui de pouvoir survivre en l'absence d'oxygène. Cette aptitude serait propre aux cellules souches situées dans les muscles, ainsi que celle de la moelle osseuse, responsable de la production des cellules sanguines, comme l'a démontré Fabrice Chrétien par la suite. En fait, ces cellules adoptent un état de dormance après le décès de leur propriétaire en se débarrassant d'une partie de leur mitochondrie. Ces centrales énergétiques produisent généralement des radicaux dangereux dans un environnement anoxique. En agissant ainsi, les cellules souches évitent de s'intoxiquer. Comme des animaux qui entrent en hibernation, elles réduisent leur métabolisme au minimum. À la grande surprise de Fabrice Chrétien, les cellules souches prélevées et conservées dans un environnement exempt d'oxygène sont capables de conserver cet état de dormance plusieurs semaines, voire des mois. On pensait que seules les bactéries pouvaient survivre sans oxygène, s'exclame le chercheur. Quand les circonstances redeviennent favorables, c'est-à-dire en les mettant en présence d'oxygène, elles reprennent leur différenciation cellulaire. C'est leur mécanisme de protection, constate Fabrice Chrétien. Elles ne savent pas que l'organisme est mort, mais elles savent qu'elles se trouvent dans des conditions extrêmement hostiles. Les tissus post-mortem constitueraient-ils une manne pour la thérapie cellulaire? On pourrait effectivement régler le problème de l'accessibilité, confirme le pathologiste qui a déposé un brevet protégeant les applications de cette découverte. Vous écoutez « Voyage au crépuscule de la mort », un texte de Laurie Noro, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Belles endormies. Cela étant, il n'y a pas que les cellules souches qui survivent à leur hôte. Les autres cellules seraient, elles aussi, le siège d'une activité post-mortem. En 2017, le microbiologiste Peter A. Noble a, à son tour, surpris la communauté scientifique en publiant dans la revue Open Biology des preuves de la réactivation de gènes chez des souris et des poissons zèbres jusqu'à 4 jours après la mort. La mort est un phénomène violent. Pourtant, il semble qu'il y ait des gènes qui en font fi et qui continuent leur travail comme si tout était normal, s'exclame ce chercheur de l'Université Washington, un des rares à étudier la vie dans les cadavres. Il qualifie de « crépuscule de la mort » cette zone grise d'environ 96 heures suivant le décès. C'est initialement pour tester un nouvel outil de mesure de l'activité des gènes qu'il s'est penché sur des bestioles sans vie, avec l'idée qu'il n'y aurait justement rien à mesurer. Le principe consiste à quantifier les ARN messagers, c'est-à-dire les copies de gènes qui sont traduites en protéines, pour connaître l'activité génétique. Sans surprise, 99% des gènes diminuaient ou s'éteignaient dans un intervalle de 30 minutes suivant la mort. Mais un sursaut de vie était clairement visible plus de 24 heures après la venue de la grande faucheuse pour 1% du génome, soit environ 500 gènes. De quoi piquer la curiosité du chercheur? Parmi ces increvables, une vingtaine étaient liées à l'immunité et à l'inflammation. Une réponse prévisible, selon Peter A. Noble, puisque ces gènes poursuivaient le même rôle que de leur vivant. Veiller à la réparation et la conservation du corps. Parmi les gènes refusant de capituler, certains se sont révélés plus surprenants. Ceux liés au développement embryonnaire, par exemple, qui se taisent habituellement après la naissance. Pourquoi ce regain de vie tardif? Selon le chercheur, les conditions cellulaires de la mort pourraient s'apparenter à celles du développement de l'embryon. En effet, après la mort, l'homéostasie de l'organisme est perturbée par la rupture des cellules, alors que chez l'embryon, la régulation des fonctions biologiques n'est pas encore achevée. Dans les deux cas, ces gènes liés au développement tenteraient d'établir un équilibre dans l'organisme. Mais ce sont les gènes associés au cancer qui ont le plus secoué le professeur Noble. Ceux-ci semblent renaître de leurs cendres par dizaines, 24 heures après le décès, puis s'éteignent à jamais. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi, dans 2% des cas, les greffés du foie développent des cancers à la suite de la transplantation. Peter A. Noble estime qu'il est important de vérifier si ce phénomène existe chez l'humain, puisque la plupart des prélèvements d'organes ont lieu durant ces 24 heures critiques. Les poissons zèbres et les souris ont sensiblement la même structure organique que nous, alors on peut penser que le même processus a lieu chez l'humain, estime le microbiologiste. Autodestruction cellulaire. Les êtres humains ne peuvent survivre que quelques minutes en absence d'oxygène. Dès l'arrêt des fonctions vitales, un processus irréversible d'autodestruction se met en branle. Quand l'environnement devient anoxique après la mort, le dioxyde de carbone produit par la respiration cellulaire n'est plus évacué. Le milieu cellulaire s'acidifie sous l'effet de la production d'acide lactique. Cela provoque la rupture des membranes intracellulaires. Les enzymes de dégradation se répandent et cannibalisent l'intérieur de la cellule par autolyse, soit l'autodigestion de ses constituants. Les cellules des organes de la digestion seront les premières touchées en raison de leur grande concentration en enzymes, alors que l'autodigestion des poumons sera plus lente. La température influence aussi la vitesse d'exécution de ces enzymes kamikazes, le froid ralentissant l'autolyse. Après 48 heures, s'il n'y a pas d'embaumement, les micro-organismes ont le champ libre pour coloniser tous les recoins du corps et se nourrir des nutriments libérés par les cellules. C'est le début de la putréfaction. des cadavres et des hommes. La mort pourrait-elle rendre service à la médecine? Ce ne serait en tout cas pas la première fois. Historiquement, les cadavres ont toujours été d'une aide précieuse pour les médecins. Il a fallu franchir le tabou de la mort pour qu'il y ait autorisation de dissection afin d'apprendre tout ce qu'on sait maintenant en anatomie, rappelle Gilles Bronchetti, responsable du département d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où des dizaines de corps aboutissent chaque année à des fins de recherche et d'enseignement. Sauf que, logiquement, la science s'est attelée à expliquer pourquoi les individus étaient condamnés à mourir plutôt qu'à comprendre comment la vie s'éteint, cellule par cellule. Il y a beaucoup de recherches pour garder les gens en vie le plus longtemps possible, mais très peu sur le phénomène de la mort, constate Peter A. Noble. Si d'entrée de jeu, nous avions voulu faire une recherche sur la mort plutôt que sur notre outil génétique, nous n'aurions pas eu de financement. En étudiant la mort, nous pouvons pourtant en apprendre beaucoup sur la vie. Le chercheur qui, ironiquement, évolue dans le département des sciences de la vie est conscient que de telles découvertes peuvent s'avérer déstabilisantes pour le commun des mortels. En effet, il peut être difficile de réconcilier l'idée que des centaines de gènes et des milliers de cellules s'activeront encore en nous alors que nous aurons passé l'arme à gauche. Souvent, les scientifiques n'osent pas parler de leurs recherches car ils craignent d'endormir leur auditoire. Dans mon cas, j'ai plutôt peur que les gens se sauvent en courant en entendant parler de ces cellules zombies, rigole-t-il. Cela étant dit, Peter A. Noble croit qu'en poursuivant l'exploration des mécanismes de la mort, cela pourrait permettre de mieux l'accepter. Nous sommes à la fois fascinés et apeurés parce que c'est l'inconnu. Les gens ne voient pas le lien étroit entre elle et la vie, estime-t-il. Cette proximité ne devrait toutefois pas remettre en cause la définition de la mort. Pour moi, un individu décède quand son cerveau ne fonctionne plus, qu'il est en mort cérébrale. Ce n'est pas pour autant celle des cellules et des organes, nuance Fabrice Chrétien. Ces récentes découvertes pourraient-elles tout de même faire de nous des êtres éternels? Il est possible que certaines cellules vivent pour toujours, ce qui nous procurerait en effet une certaine immortalité, avance Peter A. Noble, qui espère lever le voile sur ce mystère en créant un département des sciences de la mort. Vous écoutez « Voyage au crépuscule de la mort », un texte de Laurie Noreau, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science. Coup de pouce aux médecins légistes. Les recherches menées sur la biologie de la mort pourraient faire leur chemin jusque dans les laboratoires de sciences judiciaires où l'on s'échine à déterminer la date et même l'heure du décès des victimes de crimes. Certes, plusieurs techniques sont déjà utilisées comme la température du cadavre, l'analyse de l'humeur vitrée de l'œil, dont la concentration en potassium est corrélée au délai post-mortem, et l'entomologie criminalistique. Mais le fait de savoir qu'après la mort, les cellules subissent une dégradation organisée, avec une séquence d'activation et d'extinction génétique bien précise, peut apporter de nouveaux outils pour déterminer avec plus de précision le moment du décès. En février dernier, les travaux du généticien espagnol Roderic Guigo, menés sur 400 cadavres, ont permis de dresser un portrait de cette succession de gènes post-mortem chez l'humain. Son équipe de recherche a développé un algorithme qui a estimé avec succès l'heure de la mort d'une centaine d'individus. L'activité dépend fortement du tissu prélevé, cœur, cerveau, peau, etc. Dans les muscles, l'expression de plus de 600 gènes est brutalement modifiée après le décès. La génétique post-mortem s'intéresse aussi au thanatomicrobiote humain, c'est-à-dire aux micro-organismes déjà présents dans le corps qui migrent vers les organes internes comme le foie et le cerveau après la mort. Certaines équipes de recherche, dont celle de la professeure Gulnaz Javan à l'Université d'Alabama, ont démontré que ces micro-organismes semblent adopter un circuit prévisible, identique dans tous les cas. Elle a démontré que les bactéries se feraient un chemin jusqu'au foie environ 25 heures après notre dernier souffle, alors qu'il leur faut un peu plus de 60 heures pour atteindre tous les organes. Certains chercheurs parlent même d'une horloge microbienne pour décrire le mouvement des bactéries, mentionne Franck Crispino, directeur du laboratoire de recherche en criminalistique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il faut maintenant comprendre ces réactions en chaîne et cartographier le mouvement du microbiote post-mortem. Il y a beaucoup de pistes de recherche. C'est très prometteur, même si l'intervariabilité du microbiome entre individus constitue un obstacle, estime celui qui agit aussi à titre de chercheur au Centre international de criminologie comparée. Qui sait? Les gènes et les bactéries des victimes coinceront peut-être un jour les meurtriers. C'était « Voyage au crépuscule de la mort », un texte de Laurie Noreau, paru le 29 mars 2018 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.